Il est quand même fascinant d'imaginer que le tout premier réseau social d'Europe n'avait absolument rien de digital.
C'est clair.
C'était littéralement des litres d'eau avec un vague goût de fer au fin fond d'une forêt en Belgique. Donc aujourd'hui, dans notre plongée, on s'attaque au dossier de la ville de Spa.
Ouais, et c'est une histoire assez incroyable.
Complètement. En lisant ce rapport détaillé, j'ai eu l'impression de lire l'histoire d'une start-up. Une start-up qui aurait enchaîné des pivots stratégiques absolument parfaits depuis le XVIIIe siècle pour survivre à chaque crise, quoi.
Bah, le capital de départ de cette entreprise territoriale, c'est en fait juste une faille géologique, une faille qui libère une eau minérale très spécifique.
Une eau carbogazeuse, c'est ça?
Exactement, ouais. Sauf que, au tout début, l'usage de cette eau n'a vraiment rien à voir avec le bien-être comme on l'entend aujourd'hui.
Bah oui, parce que les documents parlent de gens comme le tsar Pierre le Grand ou Casanova, et ils ne venaient pas du tout pour se baigner, en fait.
Non, non, ils la buvaient.
C'est ça, ils ingurgitaient des litres de cette eau ferragineuse. Mais pourquoi cette obsession pour la boisson?
Ah, en fait, cette cure par ingestion, c'était surtout un formidable alibi médical. Ça permettait aux monarques et aux diplomates de se réunir très loin des capitales.
Ah d'accord, je vois le genre.
Ouais, et ils pouvaient négocier des traités dans un cadre beaucoup plus détendu. C'était un moyen d'échapper au protocole hyper rigide des cours européennes de l'époque.
Attends, donc l'eau, c'était juste une excuse pour se retrouver incognito?
C'est exactement ça.
C'est l'équivalent historique des séminaires d'entreprise d'aujourd'hui, en fait. Le genre de truc où la partie de golf sert de prétexte pour signer des contrats loin de la bureaucratie. C'était vraiment une zone neutre pour réseauter.
Bah, la ville a même gagné le surnom de café de l'Europe à cette époque. Mais ce fameux réseau a bien failli disparaître totalement.
Avec la Révolution française, c'est ça, hein?
Oui, la Révolution balaye toute cette clientèle aristocratique. Et par-dessus le marché, il y a un incendie géant qui dévaste presque tout en 1807.
Le coup de grâce.
On aurait pu le croire, ouais. Mais paradoxalement, cette table rase a forcé la ville à repenser totalement l'exploitation de son eau.
Et c'est là qu'intervient le fameux premier pivot.
Le rapport parle de la théorie du panier de biens pour décrire leur modèle actuel. Mais concrètement, comment une ville applique un concept pareil à de l'eau? Alors, imaginons que l'eau n'est pas juste un liquide. C'est un véritable package d'attrait. En gros, la municipalité garde jalousement la propriété publique de la source.
D'accord.
Mais elle concède tout ce qu'il y a embouteillage à l'entreprise Padel. Et eux, ils exportent environ 87% des prélèvements.
Ah oui, c'est énorme.
Ouais. Et ça crée une vraie interdépendance. La vente des bouteilles finance la protection stricte d'un parc naturel gigantesque de plus de 13 000 hectares.
Et en retour, cette forêt hyper protégée garantit la pureté de l'eau, ce qui fait tourner le tourisme et le thermalisme local. C'est un cercle vertueux parfait, en fait.
Totalement.
Par contre, il y a un détail technique dans l'analyse qui m'a complètement bluffé. Pour être sûr qu'il n'y a aucune chimie dans cette forêt immense, ils n'utilisent pas une armée de techniciens ou des capteurs. Ils déploient 400 000 abeilles.
Oui, c'est fou, hein.
Mais comment, je veux dire, comment des insectes peuvent certifier la pureté de l'eau?
Bah, des abeilles agissent comme des sortes de drones naturels de biosurveillance. Elles butinent tous les jours sur un rayon d'environ 3 km et elles ramènent constamment du pollen et du nectar.
Et de l'eau aussi, j'imagine.
Voilà. Et du coup, en analysant leur miel en laboratoire, les scientifiques peuvent repérer la moindre trace infime de pesticides ou de métaux lourds. Si les ruches sont saines, l'intégrité de la zone est garantie de façon irréfutable.
C'est brillant. Mais l'ironie de cette histoire, c'est que cette obsession pour la pureté naturelle et le contrôle, c'est pas leur seule stratégie pour exister. À l'autre bout de la ville, ils ont fait l'inverse exact.
Tu penses au circuit automobile?
Bah oui, ils ont capitalisé sur le danger et l'adrénaline pure avec le circuit de Spa-Francorchamps.
Le contraste est vraiment saisissant. Le circuit a été créé en 1921 sur des routes publiques qui étaient terrifiantes.
Avec des dénivelés de dingue.
C'est ça. Le tracé épousait le relief abrupt ardennais avec des virages comme le mythique raidillon de l'Eau Rouge. À l'époque, c'était une quête de vitesse sans aucun filet de sécurité.
C'était littéralement mortel pour les pilotes, quoi.
Oui, à un tel point qu'ils ont fini par boycotter la piste. Et là, on retrouve notre parallèle avec la résilience de la ville.
Parce que la ville a aussi subi un choc similaire.
Exactement. En 1991, la sécurité sociale arrête de rembourser les cures thermales médicalisées. Le modèle s'effondre du jour au lendemain.
Et donc ils ont dû pivoter vers l'industrie moderne du bien-être.
Voilà. Et le circuit a dû faire exactement pareil face au boycott de son côté. S'adapter ou mourir. Il est passé d'une piste routière meurtrière à un complexe fermé et hyper sécurisé pour la course moderne.
C'est vraiment la survie par l'évolution constante. En fait, ce qu'on peut retenir de cette plongée, c'est comment une simple faille géologique a pu tout dicter. De la diplomatie du XVIIIe siècle à l'architecture jusqu'à la résilience économique d'un territoire sur 3 siècles.
Ouais, une seule ressource a structuré des industries aussi opposées que l'embouteillage mondial, la protection des forêts et le sport automobile de pointe.
Ce qui soulève une question assez vertigineuse pour clore cette analyse. Quand on sait qu'une ressource naturelle aussi primitive que l'eau a secrètement dicté l'histoire et l'adaptation d'une ville entière, quelles ressources invisibles, actuellement enfouies sous le béton, sont en ce moment même en train d'écrire le destin et l'économie des mégalopoles de demain ?